Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment la nécessité de mettre la démocratie à l'abri de la domination des plus riches a-t-elle puissamment animé les pères fondateurs de la démocratie américaine et avant eux les cités médiévales italiennes? Que doivent nos démocraties contemporaines à la période médiévale et au christianisme, s'interroge le juriste Alain Supiot. Quelles sont les bases juridiques et médiévales de la démocratie, de l'apport du droit canonique à l'apport du droit communal? Comment l'air de la ville peut-il rendre libre? Alain Supiot, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, membre de la Commission mondiale sur l'avenir du travail, nous entraîne dans une grande réflexion autour des figures juridiques de la démocratie économique cette semaine et la semaine prochaine. Afin de comprendre la spécificité de la culture démocratique occidentale dans le contexte actuel de la globalisation, il analyse la généalogie de cette notion de démocratie économique. Dans le cours précédent, il a notamment indiqué, je le cite, que la démocratie naît d'une pratique plutôt rare, mais dont la Grèce ancienne n'a pas eu le monopole, qui consiste pour les hommes libres d'une société donnée à s'assembler pour décider ensemble et sur un pied d'égalité des affaires communes. Il y a bien des raisons de penser que notre tradition doit tout autant et sans doute davantage aux formes de délibération développées au Moyen-Âge pour administrer les affaires de l'Église, nous explique le juriste. Mais ce qui m'intéresse ici est de vous montrer qu'aussi bien dans la Grèce ancienne qu'au Moyen-Âge, et plus tard dans l'Amérique devenue indépendante, la question économique a toujours été au cœur de la pratique de la démocratie et que ce n'est que de façon somme toute récente, avec le néolibéralisme, qu'on a prétendu l'en exclure en tentant de substituer à la vieille économie politique une science économique qui, comme toute science, ne relève pas du débat démocratique, mais s'impose à ce débat. Avec la Grèce de Solon, confrontée à une cité d'Athènes déchirée par les inégalités économiques, nous avons découvert hier comment la démocratie grecque avait pu trouver son origine dans un acte souverain d'effacement des dettes des pauvres à l'égard des riches. Pour Alain Supiot, Solon reconnaît à tous les hommes libres une part de dignité, mais pas encore une égale dignité. Il en résulte une égalité devant la loi, mais pas encore un droit égal de faire la loi. Ce pas sera franchi par les réformes introduites par Clisthène un siècle plus tard, rappelle-t-il. Le vocabulaire politique se déplace alors de la notion d'eunomie, de bonne répartition des places, à celle de kratos, d'exercice du pouvoir. Celui-ci ne doit être détenu ni par un seul, un autocrate, monarque ou tyran, ni par les nobles, les aristocrates, ni par les plus riches, les plutocrates, mais par le peuple, démocratie. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 25 novembre 2016 pour le cours d'Alain Supiot, aujourd'hui, les bases juridiques médiévales de la démocratie.
Nous nous étions quittés sur cette belle citation de Jean-Pierre Vernant et sur l'opposition qu'il y a entre ceux qui, pour penser l'ordre de la cité, partent de ses problèmes concrets, partent de l'expérience de cette cité, notion d'expérience qui est en fait au cœur de la tradition démocratique. On assoit l'ordre de la cité sur l'expérience de ses membres. Et Vernant mettait cette façon de faire en opposition à la façon platonicienne qui consiste à partir au contraire d'un ordre idéal, mathématisable, que l'on va chercher à appliquer à la cité. Nous étions quittés en faisant un rapprochement peut-être téméraire avec le statut de la science économique aujourd'hui qui se présente justement comme une représentation d'un ordre à mettre en œuvre. Et qui devient ainsi parfois ou qui risque de devenir aveugle à ce que sont ses propres présupposés dogmatiques. Et dans le cas du libéralisme économique, l'un de ses présupposés, c'est la foi dans la conversion miraculeuse donc des vices privés en vertu publique. Et la primauté qui est conférée, c'est là-dessus que nous étions quittés, à la recherche des utilités privées comme source du bon ordre, s'oppose frontalement donc au renoncement à soi-même, à cette préférence continuelle de l'intérêt public au sien propre, où Montesquieu, bien après les Grecs, voyait la condition sine qua non d'un régime démocratique. Donc, ce modèle grec a énormément marqué l'imaginaire de l'Occident et c'est pourquoi il continue à nous importer. Dans le siècle précédant les révolutions américaines et françaises, Montesquieu ne fut pas en effet le seul à avoir médité cette expérience et souligné ce qu'un tel régime exigeait de vertu. Il y a un autre auteur dont vous savez qu'il m'est cher, enfin ceux qui suivent ce cours régulièrement, à l'avoir noté. C'est Giambattista Vico qui a vu lui aussi à la fois la grandeur et la faiblesse de ce qu'il nomme, lui, les républiques populaires, dans lesquelles, voilà comment il les définit, ce sont les républiques dans lesquelles les peuples entiers qui veulent en commun la justice édictent des lois justes. Voilà la définition de Vico. La pratique démocratique de la délibération des lois est une école de la raison, explique Vico, qui conduit ses peuples à donner une base plus philosophique que religieuse à l'ordre social. C'est une remarque extrêmement intéressante que fait ici Vico, parce qu'il ancre l'essor de la philosophie dans la cité grecque dans cette pratique de la démocratie, dans cette pratique d'assemblée de parole dont nous avons parlé la dernière fois, où chacun a un droit égal à la parole et peut participer à une controverse, mais sous l'égide d'une recherche commune de l'utilité commune. Selon Vico, c'est un des moments où on va passer d'une base religieuse hétéronome à une base philosophique de l'organisation sociale. Alors, Vico ne cache pas son admiration pour de telles républiques populaires, mais il explique aussi combien elles sont fragiles, car leur pérennité repose justement sur la vertu de leurs citoyens. Et au moment même où elles touchent la plus grande réussite politique et économique, elles sont exposées à ce que Vico nomme la barbarie de la réflexion. C'est une notion qui apparaît à la fin de la Science nouvelle dans l'œuvre de Vico et qu'il utilise pour désigner le fait d'utiliser notre capacité d'abstraction, quand l'être humain utilise sa capacité d'abstraction, celle que nous avons abordée en examinant les différents niveaux du symbolisme linguistique, non pas pour mettre à distance ses passions et tenter de s'accorder sur une vue objective du monde, mais au contraire, dit Vico, pour calomnier la vérité, c'est-à-dire servir n'importe quelle cause pourvu qu'elle aille dans le sens de ses intérêts particuliers. Et alors, cette capacité humaine à l'abstraction permet de s'émanciper de la réalité, et l'on voit, dit-il, des doctes insensés s'employer à disqualifier l'idée même d'intérêt général ou à le subordonner à la recherche des utilités privées. Alors, lorsque Vico écrivait ceci, il ne pouvait pas ne pas penser aux sophistes dont les Athéniens redoutaient justement tellement l'influence pernicieuse sur la jeunesse. Selon Vico, les républiques atteintes de ce mal, de la barbarie de la réflexion, de la capacité sophistique de s'enfermer dans des boucles spéculatives qui nous coupent en réalité de l'autre capacité d'identifier dans un effort commun l'intérêt commun. Lorsqu'une cité est atteinte de ce mal, ses citoyens se désintéressent de l'utilité commune. Et, je cite Vico, « s'éteint en elle, dans ces cités, la force qui avait amené les individus à sortir de leur solitude première. » Donc ils vont retomber dans cette solitude. « Alors, dit-il, les peuples se décomposent et chacun sombre dans une apathie civique et une solitude morale Selon Vico, dans un tel état de décomposition, la puissance politique est asservie à celle de l'argent, ce qui ouvre la voie aux démagogues, ce qui fait le lit des guerres civiles, en sorte, écrit Vico, que les hommes tombent, je le cite, d'une liberté parfaite à une tyrannie parfaite. Alors nous allons voir que ce souci existentiel, c'est-à-dire cette nécessité de mettre la démocratie à l'abri de la domination des plus riches, a puissamment animé les pères fondateurs de la démocratie américaine. Mais comme je ne voudrais pas céder à l'illusion trop répandue selon laquelle les démocraties contemporaines descendraient en droite ligne de l'Antiquité, je vais vous proposer un bref intermède qui va nous occuper aujourd'hui, qui est un intermède médiéval, pour vous montrer tout ce que notre tradition démocratique doit aussi au christianisme. Donc, nous allons parler des bases juridiques médiévales de la démocratie. En effet, quand ils ne font pas découler directement les démocraties modernes de l'Antiquité dont se réclamaient les révolutionnaires français, les historiens et politistes limitent généralement la contribution médiévale à la démocratie à l'émancipation des villes marchandes du pouvoir féodal. Il est tout à fait exact, nous allons le voir, que le droit municipal inventé dans les cités d'Italie ou des Flandres est une contribution majeure à l'histoire de la démocratie économique. Mais cette invention ne peut se comprendre indépendamment de l'apport du christianisme et des modes de délibération adoptés par l'Église. Il faut avoir cet apport en tête pour comprendre la spécificité de la culture démocratique occidentale dans le contexte actuel de la globalisation. Alors, n'ayant pas le loisir de trop m'étendre sur ces racines historiques de notre culture juridique, je me contenterai ici d'indications très générales qui concerneront donc d'abord le droit canonique et ensuite le droit municipal. Donc, d'abord, l'apport du droit canonique. Le mot même d'église, qui a été adopté par les premiers chrétiens pour désigner leur communauté, est révélateur de la double égide sous laquelle ils entendaient se placer. Église vient d'ecclésia. Et première racine, c'est celle de l'Ancien Testament, qui dans sa traduction grecque, ce qu'on appelle la Septante, emploie systématiquement le terme d'ecclésia pour désigner le peuple d'Israël lorsqu'il est assemblé pour écouter la parole divine. Mais l'autre racine, c'est celle de l'ecclésia au sens démocratique, inventée et pratiquée par les Grecs, qui avait de forts échos dans l'Antiquité païenne où les premiers chrétiens prêchaient la bonne nouvelle. Vous voyez, le mot ecclésia fait la synthèse d'une racine vétérotestamentaire et de l'expérience démocratique grecque. Avec toutefois cette inflexion considérable que cette assemblée des chrétiens n'était plus seulement celle des citoyens mâles, mais s'étendait aussi aux femmes, aux enfants et aux esclaves. Cette façon d'emprunter aux techniques juridiques de l'époque, tout en les plaçant sous la référence divine, va demeurer une constante de la longue histoire juridique et administrative de l'Église d'Occident. Si c'est si intéressant pour les juristes, l'Église d'Occident et la papauté, c'est que c'est la plus vieille institution du monde, la plus pérenne, et elle tient par le droit. Alors, on retrouvera ultérieurement à l'œuvre cette influence, aussi bien pour légitimer le pouvoir impérial du pape, concernant les modes de délibération des chapitres cathédraux ou monastiques ou l'autorité des conciles. Dans le christianisme des origines, l'ecclésia était donc appelée à délibérer selon des procédures qui universalisaient le modèle démocratique de l'ecclésia grecque. Cette universalisation, dont le projet continue d'animer aujourd'hui les démocraties occidentales, se traduisait par une double extension territoriale et personnelle du champ d'application de la démocratie. Extension territoriale, puisque le message de l'Église s'adressait au monde entier. Et extension personnelle, puisque tous les chrétiens en étaient membres, à parts égales, indépendamment de leur nationalité, de leurs conditions sociales et de leur sexe. Cette égalité et cette unité de tous les chrétiens dans l'Église fut affirmée avec force par saint Paul dans un passage célèbre de l'Épître aux Galates qu'on a déjà eu l'occasion de commenter, mais qu'on va retrouver sous un autre angle cette fois-ci. Voilà ce qu'il écrit aux Galates dans cette lettre pleine d'une certaine fureur. Mais la foi venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Donc dans la pensée chrétienne, le peuple, les enfants de Dieu, ainsi unis sur un pied d'égalité dans l'Église, ne peut errer. La vérité d'une proposition se reconnaît donc à ce qu'elle est reconnue par tous. C'est le sens de l'adage « vox populi, vox dei » qui apparaît dès le début du IIIe siècle chez Cyprien pour justifier l'élection des évêques par l'Assemblée des fidèles et qui sera encore invoqué 7 siècles plus tard pour justifier l'attachement des Anglais à leur monarque face à l'occupation danoise. Cette idée n'est pas propre à la culture occidentale et dans la Chine impériale aussi, le peuple était vu comme une, je cite ici Jean Lévy, comme une manifestation socialisée du ciel. Mais à la façon des désordres météorologiques, le peuple en Chine était scruté par les mandarins comme un symptôme, comme un objet à déchiffrer, tandis que dans la tradition chrétienne, il est perçu comme un sujet animé d'une volonté collective. Il faut, pour comprendre l'origine de cette formule « vox populi, vox dei », prendre conscience de la tension qui anime la vision de la communauté dans le christianisme. D'un côté, chacun est placé seul devant la perspective du jugement, c'est-à-dire du jour où, nu et tremblant, il paraîtra devant son Créateur qui décidera de son salut ou de sa damnation éternelle. Scène terrible dont saint Paul évoque, qu'il évoque en ces termes dans l'Épître aux Romains. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Toi aussi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Puisque nous paraîtrons tous devant le tribunal du Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, que tout genou se ploiera devant moi et que toute langue donnera louange à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc c'est l'individualisme radical face à la question du salut. Mais ce germe d'un individualisme radical, que le protestantisme accentuera encore avec la doctrine de la prédestination, est balancé par l'appartenance à l'Ecclésia. Et dans la même épître aux Romains, saint Paul use, pour décrire cette unité, de la métaphore organiciste du corps mystique, c'est-à-dire d'une entité transcendant les individus et les générations, et au sein de laquelle les chrétiens sont tous frères et peuvent se soutenir mutuellement par des prières et des œuvres de charité. Et c'est le moment de venir à ce passage. De même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Je ne saurais trop souligner l'importance juridique de ce que dit ici saint Paul. Cette idée de corporation a été promise à une histoire juridique fabuleuse, puisqu'aujourd'hui encore elle sert à désigner la société commerciale en droit anglais, les corps de fonctionnaires en droit français, et on parle même à propos du président de la République sans cesse du problème de l'incorporation de la République dans la personne, etc., etc. Donc elle explique la place centrale qu'a occupée dans la pensée juridique médiévale un adage qui était repris du Digeste, et cet adage, c'est non sans latin « quod omnes tangit ad omnibus tractari et approbari debet », ce qui concerne tous doit être discuté et approuvé par tous, puisque nous sommes solidaires comme un seul corps, tout ce qui concerne une partie du corps concerne tout, et donc ce qui concerne tout le monde doit être approuvé par tout le monde. Cette règle, je viens de le dire, elle vient du digeste. Donc on emprunte ici à la tradition juridique romaine. Et c'était au départ une modeste règle de droit privé que le corpus iuris civilis, remarquez au passage encore la métaphore du corps pour parler du corpus iuris civilis, mentionne pour régler le mode de prise de décision en cas de pluralité de tuteurs d'un même incapable. Si un même personne frappée d'incapacité à plusieurs tuteurs, il faut prendre une décision, et on avait la règle, c'était ce qui concerne tous, doit être discuté et approuvé par tous. Les juristes médiévaux s'emparent de la formule pour régler les assemblées de parole, qu'il s'agisse d'assemblées religieuses ou d'assemblées séculières. Et cet emploi se répandit tellement, il eut un tel succès, que cet adage ne fut souvent mentionné que sous la forme abrégée QOT. Elle permettait de désigner en termes généraux la solidarité du corps politique et la nécessité du consentement de tous à des décisions importantes. Et la première de ces décisions importantes, c'était naturellement l'élection de ceux qui vont diriger la communauté religieuse, qu'il s'agisse des chapitres cathédraux ou des chapitres monastiques. Chapitre, là aussi, la métaphore du corps étant présente, bien entendu, c'est la tête. Le cas des monastères est particulièrement intéressant, puisque, comme vient de le démontrer Pierre Musso dans un livre qui va paraître très prochainement, le monastère est le véritable ancêtre de l'entreprise moderne. Sujet sur lequel vous pouvez aussi consulter, du point de vue des formes d'organisation du travail, la thèse récemment publiée d'Isabelle Jonvaux. En effet, la règle de Saint-Benoît fixe le modèle d'une communauté à la fois religieuse et économique. J'ai dit on ne distingue pas politique et économique dans la démocratie. Ici, on ne peut pas distinguer l'aspect religieux et économique. Communauté soudée par la foi est placée sous la double obligation du travail et de la prière, selon la fameuse règle « orare et laborare ». C'est sur ce sujet aussi que vous pouvez d'ailleurs consulter la thèse de Madame Jonvaux. Cette règle a été élaborée au VIe siècle par Benoît de Nursie, fondateur du monastère du Monte Cassino en Italie. C'est la règle bénédictine qui a inspiré celle dont se sont dotés par la suite tous les ordres monastiques. Elle a notamment servi de modèle pour l'organisation des assemblées de parole monastiques. Et on en lisait des chapitres aux moines assemblés. D'où du reste ce nom qui servira à désigner cette assemblée elle-même. Alors le chapitre 48 de la règle, de cette règle bénédictine, est sans doute le premier code du travail jamais rédigé. Il règle le travail manuel de tous les jours. Alors, je ne vais pas vous faire la lecture intégrale de ce passage, mais vous allez voir en quoi c'est un code du travail complet. Donc, à certains moments, les frères doivent travailler de leurs mains, à d'autres moments, ils doivent être occupés à la lecture de la parole de Dieu. Donc, travail manuel, travail intellectuel. Il faut un équilibre dans ces deux formes de travail. Donc il faut organiser ces deux occupations de la façon suivante. Et suit une série d'articles qui fixent des horaires, qui distribuent une journée de travail qui va différer selon la saison. Il n'y a pas encore l'électricité ni l'informatique qui permet d'être disponible 24 heures sur 24. Donc les rythmes de travail sont accordés à ceux de la nature. J'ai mis le passage qui va de Pâques au 1er octobre, c'est-à-dire plutôt l'été. On travaille jusqu'à 10 heures le matin, de 10 heures jusqu'à l'office de sexte, on fait lecture. Après le sexte, on se repose sur son lit, dans un silence complet. Ou bien quand un frère veut lire en particulier, il lit tout bas, sans gêner les autres, parce que c'était l'époque où on lisait, ne pouvait lire qu'à voix haute. Donc, dans les périodes de carême, chacun reçoit un livre et il le lit à la suite et en entier. Et on organise une surveillance des moines, parce que parmi eux, il y a peut-être des grosses feignasses qui n'ont de goût à rien. Ils passent leur temps à ne rien faire ou bavarder au lieu de s'appliquer à la lecture. Alors ce frère se fait du tort à lui-même et en plus, il distrait les autres. Alors, s'il ne se corrige pas, on le punit. Donc là, vous avez le droit disciplinaire, donc vous avez le règlement, le droit disciplinaire, ce qu'on retrouve dans le code du travail. On le punit selon la règle, pas de façon arbitraire, pour que les autres en éprouvent de la crainte. C'est la vertu exemplaire du droit pénal. Alors, bon, le dimanche, j'ai noté le dimanche puisque le repos dominical est évidemment prévu dans la règle de Saint-Benoît. Et enfin, j'ai cité le paragraphe 24 parce qu'il règle la question de la maladie ou des moines dont la santé est fragile ou vieux. Eh bien, on adapte l'intensité du travail, la charge de travail à leur état physique. Donc vous avez ici à la fois un modèle de code du travail et aussi une organisation minutieuse du temps. En sorte que ce temps soit un temps aussi productif que possible, producteur de biens matériels et producteur de biens spirituels. Donc, pour plus de mais beaucoup plus même, d'analyse et d'informations sur cette origine monastique du capitalisme moderne, je vous renvoie donc au travail de Pierre Musso, qui devrait paraître très prochainement. Donc, ce chapitre comporte 25 articles, qui définissent avec minutie donc l'organisation du temps, la discipline, etc. Et comme un moderne chef d'entreprise, l'abbé décide seul. La règle dit, chapitre 3.5, « Oui, c'est l'abbé qui décide, il juge ce qui vaut mieux et tous lui obéiront. Mais il doit le faire après avoir pris l'avis de tous, ainsi que le prescrit le chapitre 3 de la règle. » qui parle donc de la réunion des frères en conseil, donc nous avons l'organisation là de l'assemblée de parole dans le monastère médiéval. Chaque fois qu'il y a des choses importantes à discuter, l'abbé doit réunir toute la communauté, il présente l'affaire et il écoute les frères. Tous les frères sont appelés au conseil et à la fin c'est l'abbé qui décide. Mais l'abbé fera tout en respectant Dieu avec confiance, et il se soumettra à la règle. Oui, c'est sûr, il le sait, il devra rendre compte de toutes ses décisions à Dieu, le juge parfaitement juste. Il s'agit donc d'un régime monarchique, mais d'une monarchie constitutionnelle élective. Ce n'est pas le bon plaisir qui régit le monastère, mais c'est l'abbé en tant qu'il obéit lui-même à la loi divine. Alors, se pose évidemment la question d'un abbé qui serait indigne. Et dans ce cas, vous voyez, si le diable vient le tenter, comment établir l'abbé? Comment le désigner? Celui qu'on va établir comme abbé, on le choisira à cause du mérite de sa vie et de la sagesse de son enseignement, même s'il est au dernier rang de la communauté. Même s'il est au dernier rang. Donc, il n'y a pas, c'est pas un système aristocratique ou à l'ancienneté. On essaie de choisir celui, en théorie. En théorie. Voilà ce qui peut se passer, mais espérons que cela n'arrivera pas, dit la règle. Enfin, ça veut dire que ça arrive. Une communauté se conduit très mal, tous les moines sont d'accord pour choisir un frère qui approuve leur mauvais penchant, en particulier ceux qui aiment plutôt faire la sieste qu'aller travailler. Donc on choisit plutôt un abbé qui est favorable à la sieste. Quand l'évêque du diocèse où ce monastère se trouve, quand les abbés des monastères voisins ou quand les chrétiens des environs apprennent ce grand mal, ils feront échouer le complot des mauvais moines et ils établiront à la tête de la maison de Dieu quelqu'un qui en soit digne. Donc nous avons une monarchie élective, puisque selon la doctrine canoniste du quod omnes tangit, la légitimité du pouvoir ne procédait ni de la sainteté ou de la sagesse de celui qui l'exerce, ni d'un sacrement divin, mais de ce que, selon une formule du pape Léon Ier, 5e siècle, je cite, « Celui qui va commander à tous doit être élu par tous. » Et cette règle sera reprise dans le décret de Gratien. Les canonistes l'appliquèrent aux délibérations des conciles à compter du 12e siècle, ouvrant la voie à sa reprise dans l'ordre séculier comme base juridique du gouvernement représentatif. Donc, le recours à l'élection est ainsi, avec l'élargissement de l'Ecclésia à tous les fidèles, indépendamment de leur sexe, âge, nationalité et condition, le deuxième grand apport des médiévaux à notre conception de la démocratie. recours à l'élection. Vous vous souvenez, les Grecs, on tire au sort. Là, élection. Et à la différence de la démocratie grecque, la désignation des pasteurs ne repose pas sur le tirage au sort, même si une certaine place peut lui être accordée dans la procédure électorale, par exemple pour désigner des grands électeurs.
Collège de France et France Culture vous présente le juriste Alain Supio. Aujourd'hui, les bases juridiques médiévales de la démocratie.
Ce mot élection qui arrive, il arrive sous sa forme latine, electio, du latin eligere, choisir, au sens encore actuel où on parlerait d'élection de domicile. L'élection, c'est le choix. Donc, j'élis le prêtre, c'est j'élis tel moine comme abbé, c'est je le choisis. Ce mot n'a pas alors son sens moderne. Il désigne plutôt le consentement, et même en principe, nous l'avons dit, le consentement unanime, qui assure que c'est bien la voix de Dieu qui s'exprime au travers de son peuple. Et ce consentement ressemble donc davantage à ce qu'on nomme aujourd'hui d'un terme venu du droit international public, un consensus, c'est-à-dire l'absence d'opposition déclarée. Au passage, ces techniques ont ressurgi en droit du travail très récemment avec l'introduction par les lois Auroux d'un droit d'opposition conféré à un syndicat qui n'a pas signé un accord dérogatoire. Le syndicat qui s'abstient d'exercer ce droit d'opposition consent alors à une règle qu'il n'a pas élue au sens de choisir. Idéalement donc, s'agissant de l'élection des évêques, on a le consentement de tous. Et ce consentement s'exprimait bruyamment par des acclamations rituelles qui marquaient plus l'adhésion qu'un véritable choix. La vox populi venait ainsi donner son onction à un choix qui, dans bien des cas, avait échappé aux membres de l'Assemblée. Comme le résume Gratien, un évêque est seulement porté à la tête de son Église, je cite, « lorsque le peuple a acclamé celui que le clergé a élu par un vote commun ». Vous voyez, le clergé élit et ensuite le peuple acclame. Mais ce consensus n'en était pas moins jugé nécessaire et l'on faisait tout pour en faire surgir cette apparence d'unanimité. Ce qui fait que ceux qui avaient pu exprimer des réserves se ralliaient bruyamment au choix du plus grand nombre. Ça n'a pas disparu dans les pratiques contemporaines. Mais il faut ressouder, parce qu'évidemment, la discussion sur qui on va choisir crée une tension à l'intérieur de la communauté. Et il faut que tout le monde se retrouve autour de celui qui a été élu. Ça explique cette observation très subtile que fait Brian Tierney, qui est un des meilleurs historiens des questions dont je vous entretiens, selon lequel le trait distinctif de la pensée médiévale n'a pas été de préserver la vieille notion de hiérarchie, mais d'avoir introduit une innovation radicale en usant du concept d'égalité comme fondement de nouvelles théories juridiques et politiques du gouvernement par consentement. La théorie médiévale du consentement est une source majeure, dit Tierney, développée au XVIIe siècle par les opposants à l'absolutisme des Stuart et transmise au père fondateur de la démocratie américaine. Oui, il souligne ici, enfin, c'est une manière de relativiser la fable de la continuité de la démocratie grecque aux expériences démocratiques de la fin du XVIIIe siècle. Avec l'élection est lié à elle, c'est donc le fondement contractuel de l'exercice du pouvoir qui apparaît chez les canonistes. On sait la fortune de cette idée, qui est une fortune à la fois philosophique, de Hobbes à Rawls, en passant par Rousseau, une fortune politique avec les révolutions anglaises, américaines et françaises, et une fortune sociale, des premières thèses solidaristes qui voient un quasi-contrat à la base de la solidarité, jusqu'au débat actuel sur la négociation collective d'entreprise. Consentement, contrat, sont des notions qui vont occuper une place centrale à partir de cette date dans la discussion et les réflexions sur la démocratie, et c'est un lait direct de l'apport canoniste. Alors, cette continuité, bien sûr, ne va pas toutefois sans rupture. La première et la plus évidente est que pour les canonistes, le gouvernement devait être assis sur le consentement de tous, quod omnes tangit, tous, seuls susceptibles de correspondre au salut de tous. Le scrutin majoritaire, dont ils ont aussi inventé les techniques, n'était donc pour eux qu'un pis-aller. Cette rupture en entraîne d'autres qui portent sur l'objet de l'assemblée de parole. Pour les canonistes, cette assemblée doit permettre, selon la maxime vox populi, vox dei, d'identifier le bien commun. Et ils étaient en cela les continuateurs des Grecs. Mais le recours aux idées de consentement et de contrat portait aussi en germe une autre conception de la démocratie. Une conception dans laquelle l'objet de la démocratie serait moins d'identifier un bien commun s'imposant à tous que de trouver un compromis ménageant les intérêts de tous. Et nous avons là une tension que nous allons retrouver jusqu'à l'époque moderne entre ces deux conceptions. Est-ce que la démocratie, on s'assemble, on définit un bien commun qui s'impose à tous, ou est-ce que la démocratie, c'est le lieu où chacun vient avec ses intérêts particuliers, et puis on discute le bout de gras, si je puis me permettre, et on essaie de trouver des compromis qui vont satisfaire tout le monde. À l'époque des canonistes, idéalement, l'assemblée de parole conduit à ne parler que d'une voix. Et le seul vrai consentement de tous est donc l'unanimité de l'assemblée qui seule permet de présumer l'inspiration divine. Si tout le monde parle d'une seule voix, c'est que ça y est, Dieu est là parmi nous, il nous a dit ce qu'il fallait faire. Pendant longtemps, le pape fut élu de cette façon, et les opposants se ralliaient au terme d'une tractatio, et tractatio, là, le changement du sens du mot par rapport au sens originel latin est intéressant, parce qu'à l'époque, c'était le débat, la tractatio, c'est pas justement la transaction au sens commercial du terme. À partir du moment où ce consensus ne parvenait plus à s'établir, il fallait bien recourir à la règle de la majorité. La prise de décision à la majorité ne sera toutefois jamais considérée que, je le répète, comme un pis-aller. Et aujourd'hui encore, elle opère comme une fiction juridique. On fait comme si, ayant été prise par tous, la décision obligeait tout le monde. Vous avez pu voir encore récemment l'élection du prochain président des États-Unis, il a commencé par dire « je suis le président de tous les Américains ». Donc la formule « quote » réapparaissait même dans ce lieu imprévu. Mais quelle majorité est la plus susceptible de soutenir cette fiction de l'unanimité? Donc la majorité, c'est une fiction d'unanimité, n'oublions pas ça. Quelle majorité est susceptible de soutenir cette fiction? Il y a eu une opposition, un débat qui s'est noué parmi les canonistes. Il y avait d'un côté les tenants de ce qu'on appelait d'abord la maior pars, la majorité arithmétique. On y a souvent opposé la nécessité d'ajouter la senior pars. Senior, c'est-à-dire la part la plus sage, la plus digne de confiance. L'idée, c'est que si vous avez une assemblée de parole, si nous nous transformions en parlement, on pourrait dire, on va compter, un homme, une voix, puis d'autres diraient, oui, mais quand même, il y en a qui sont plus sages que d'autres, plus savants, plus expérimentés, leur voix doit compter plus. Bon. Donc on a cette tension d'où va surgir l'invention du quorum. Alors, on le trouve déjà dans la règle de Saint-Benoît, chapitre 64, comment établir l'abbé, il faut faire un choix qui plaise à Dieu. Bon, comment faire? Comment plaire à Dieu? On donne la charge d'abbé à celui que toute la communauté, animée d'un respect confiant envers Dieu, a choisi d'un commun accord. Ou bien, on la donne à celui qu'un petit nombre de moines seulement a choisi, mais avec un jugement plus sage. Bon, Alors, les choses se compliquent parce que cette référence à la Sagnor Pars ouvre évidemment la porte à toutes les contestations. Chacun va avoir tendance à estimer qu'il fait partie de ces plus sages. Le recours donc à la majorité qualifiée des deux tiers a été inventé par les canonistes pour tenter de satisfaire ces doubles exigences quantitatives et qualitatives. Dans les ordres mendiants, les élections par le convent, alors un peu de terminologie monastique, le convent, c'est ce que dans une entreprise moderne on appellerait le personnel, c'est-à-dire c'est l'assemblée des moines, qu'il ne faut pas confondre avec le couvent, qu'on appellerait l'entreprise, qui est l'ensemble formé par le personnel et le matériel monastique. Donc, les élections par le convent étaient précédées d'une procédure canonique en 5 temps, qui comprenait, premier temps, une enquête, au cours de laquelle 3 scrutateurs recueillaient secrètement, mais à l'avis de tous, l'avis de chacun. Donc, si nous étions à l'assemblée monastique, il y aurait 3 d'entre vous qui passeraient l'un après l'autre et qui noterait l'avis de chacun. Chacun donne son avis secrètement, mais devant tout le monde. Deuxième temps, le collationnement public des voix. Bon, les scrutateurs disent, voilà le résultat de notre enquête. Troisième temps, dans le cas où ni unanimité ni majorité ne se dégagent, on recommence. Nouveau scrutin. Une fois une majorité quantitative ou qualitative acquise, il y a un appel au consentement de la minorité. On se tourne vers ceux qui avaient un autre avis et on leur demande de se rallier en sorte que l'élection puisse être dite unanimitaire et concorditaire. Et enfin, ça se termine par l'acte d'élection proprement dit, c'est-à-dire la proclamation du résultat. Bon, en principe, si tout se passe bien, à la fin de la séance, on dit qu'on était tous d'accord. Et celui qu'on a désigné, il a été élu par tous. Mais évidemment, ces différentes techniques n'ont pas en réalité suffi à éviter les déchirements, et notamment les déchirements qu'a connus l'Église catholique à sa tête même dans l'élection des papes. À plusieurs reprises, elle s'est trouvée dotée de 2, voire 3 papes concurrents qui chacun prétendait être le seul légitime. Et ces déchirements ont connu leur acmé durant les conciles de Constance, puis de Bâle. Alors, concile de Constance, c'est 1414-1418, puis de Bâle, 1431-1441, qui virent s'opposer partisans et adversaires de l'absolutisme pontifical. Du point de vue de l'histoire de la démocratie, ces deux conciles occupent une place majeure, en réalité. C'est un moment où l'Église catholique aurait pu basculer du côté d'un modèle proprement démocratique. Ce sont toutefois les partisans de l'absolutisme pontifical qui finirent par l'emporter, mais ces conflits étaient révélateurs d'une crise profonde qui allait conduire un demi-siècle plus tard, avec l'édit de Worms en 1521, à la réforme protestante et à une cassure qui, à ce jour, est restée définitive de l'Église d'Occident entre catholicisme et protestant. Bon. À compter de la Réforme, le protestantisme fut le terreau des pratiques démocratiques qui allaient éclore politiquement en Angleterre puis aux États-Unis. Le principe de l'autorité souveraine des Écritures, le sola scriptura, et la désacralisation d'un pouvoir politique qui se trouvait délié de l'autorité des papes, ça c'est le grand moment de la Réforme protestante du point de vue de l'histoire du droit qu'a étudié Harold Berman dans le tome 2 de Droit et Révolution, c'est comment on se trouve avec des princes qui ne sont plus sous l'autorité d'un pape, donc c'est un moment majeur dans l'histoire de nos institutions. Ça a été aussi le germe de la démocratisation en ce qu'ils ouvraient la voie au libre examen individuel et à une possible remise en cause des gouvernants. C'est toutefois chez les calvinistes, notamment chez les huguenots français, que ces tendances se sont essentiellement exprimées à travers notamment l'organisation interne de leurs églises qui donne voix aux laïcs dans les consistoires et les synodes. Pour les pères fondateurs des États-Unis, nous le verrons, l'indépendance et l'égalité relative des conditions économiques étaient une condition d'existence de la démocratie politique. Mais avant d'en venir à cette période récente, je dois encore vous dire un mot de l'autre apport juridique médiéval à la démocratie économique, c'est-à-dire au droit communal des cités marchandes, qui est un aspect mieux connu, mieux décrit. Donc je pourrais aller plus vite. L'essor de ce qu'on appelait les franchises communales, à compter du XIe siècle, est généralement considéré, avec la référence à l'Antiquité, comme la véritable racine historique des démocraties modernes. Et la notion même de citoyen et de citoyenneté porte dans la langue allemande la trace de cette origine historique, puisque Bürger, Bürgerschaft, servent à désigner aussi bien le bourgeois et la bourgeoisie que le citoyen et la citoyenneté. Mais en anglais, comme dans les langues latines, les notions de citizen, citoyen, cittadini, désignent les citadins, ceux qui sont membres d'une cité et jouissent à ce titre d'une liberté que n'ont pas les contadini, pour parler italien, c'est-à-dire les paysans qui sont attachés à leur glèbe. La notion de citoyenneté a ainsi été recyclée du droit romain par les juristes médiévaux avant de l'être à nouveau par les révolutions américaines et françaises à la fin du XVIIIe siècle. Alors, rassurez-vous, il ne s'agit pas pour moi de retracer même sommairement le mouvement des franchises communales du XIe siècle à la Renaissance. Concernant l'Italie, c'est un sujet sur lequel je vous conseille d'aller suivre plutôt les cours de M. Boucheron. Mais plus simplement, de vous donner quelques repères juridiques indispensables pour comprendre qu'au Moyen-Âge, comme dans l'Athènes du Ve siècle, la démocratie urbaine fut indissolublement politique et économique et adossée à la religion. Sur ce point, l'influence, évidemment, de ce qui se passait du côté des canonistes est évidente, puisque les intellectuels de l'époque, ce sont les clercs. Donc, lorsque les cités s'affranchissent, elles baignent dans la culture que nous venons de décrire de droit canon. Alors, je laisserai de côté la question des assemblées villageoises, par manque de temps et non pas par manque d'intérêt, car elles représentent une figure démocratique particulièrement intéressante. À la différence du gouvernement représentatif qui fut élaboré dans les villes, ces assemblées de villages constituaient bien des modèles d'autogouvernement par les habitants eux-mêmes, ou plus exactement par les chefs de famille, avec bien sûr un poids plus important des plus fortunés. Ces conseils se réunissaient le plus souvent dans l'église ou sur la place, et délibérait de l'ensemble des questions économiques qui se trouvaient posées à la communauté villageoise. Ils n'avaient pas en effet d'attribution proprement politique, mais décidaient des dépenses à réaliser pour l'entretien des bâtiments communaux, essentiellement l'église, plus tard l'école, de leur équipement, notamment un équipement très important aussi pour l'histoire économique, ça on le sait notamment par les travaux de Jacques Le Goff, c'est l'achat des cloches et de l'horloge qui vont rythmer les travaux, ainsi que la voirie et l'utilisation des communaux, des biens communs. Ces communaux formaient la base de la solidarité économique des villageois en procurant également à tous un certain nombre de droits sociaux tels que le droit au bois de chauffage ou à fouage, au bois de construction ou marronnage, au droit de pâturage et de pacage sur les communaux. Certains usages, comme le glanage ou le grappillage, étaient destinés à la survie des indigents. D'une façon générale, le travail de la terre, lorsqu'il est le fait de paysans libres, amenés à collaborer aussi dans le cadre de ce qu'on appelle encore aujourd'hui, dans le Code civil, l'entraide agricole, le travail de la terre est propice à l'essor de ce type de démocratie directe, comme l'a montré Joël Zask dans un ouvrage récent intitulé « La démocratie au champ ». Et nous verrons qu'il a vraiment très puissamment nourri l'imaginaire démocratique américain. Mais dans le cas de la France, ces pratiques de démocratie directe, dont les objets étaient essentiellement économiques, notamment la gestion des communs, avaient été sérieusement affaiblies par la monarchie absolue et n'ont pas résisté au choc de la Révolution. Donc ça, c'est une page insuffisamment étudié, au moins par les historiens du droit, c'est la façon dont, en réalité, le choc révolutionnaire a amené à démanteler des formes de démocratie villageoise. La dimension économique fut aussi le principal moteur des franchises urbaines, dont je vais maintenant parler, que le pouvoir féodal accorda aux villes marchandes des Flandres et du nord de la France, à partir du XIIe siècle. Les facteurs politiques ont joué un rôle plus important dans l'essor des cités-États italiennes, car elles étaient favorisées par le pape pour faire barrage à l'extension du pouvoir des empereurs germaniques. Donc l'histoire des, si vous voulez, des franchises urbaines du nord de la France et des Flandres est une histoire qui est d'abord une histoire économique, alors que dans le cas italien, le facteur politique était très important. Mais les villes comme Pise, qui ont été dotées d'un consulat dès 1025, Milan, Florence, Gênes ou Venise, ne s'affirmèrent pas moins avant tout comme des cités marchandes. En Italie, ce mouvement est contemporain de la renaissance du droit romain dans les premières universités, et il fit largement appel à ce droit pour justifier du droit des cités de s'administrer elles-mêmes. D'où l'emploi des concepts de juridictio, res publica et surtout consuetudo, qui voulait dire coutume, mais d'où va venir constitution, d'où vient l'idée de la constitution, pour fonder les libertés de la civitas, notion elle-même directement puisée dans le modèle de la Rome républicaine. La notion de démocratie est en revanche absente de ce vocabulaire médiéval, où n'y apparaît que de façon dépréciative. C'est res publica, c'est pas démocratie. L'idée centrale est que le « jus civile » n'a pas seulement vocation à régir le domaine privé, mais justifie l'adoption par ces cités de leur propre statut qui exprime la libre volonté de ceux qui décident. Selon l'Oculus Pastoralis, cité par l'historien du droit Mario Ascheri, les lois sont le fruit des assemblées réunies dans les formes dictées par la consuetudo patriae, c'est-à-dire la constitution de la cité, et elles sont généralement justes car, je le cite, ce qui est demandé par le plus grand nombre est obtenu et la vérité est reconnue par les plus grands hommes, de même que le savoir civique est clairement reconnu. Alors, ces sources érudites montrent la totale perméabilité qui existait à l'époque entre culture juridique canonique et séculière, qui s'abreuvent toutes deux aux mêmes sources antiques pour justifier le pouvoir des assemblées. La plupart des cités italiennes se montrèrent du reste très soucieuses dans leur statut d'éviter l'accaparement du pouvoir par les plus riches ou sa captation par certaines factions ou familles. Et à cette fin, furent mis au point des modes d'élection des magistrats d'une incroyable complexité. Léo Moulin cite ainsi celui de la Sérénissime République de Venise, qui ne comptait pas moins de 9 degrés de collèges électoraux. C'est une sorte d'alambic pour essayer d'éviter la captation, la démagogie, etc. Mais ce système, aussi complexe fut-il, lui assura une longévité sans égale. Une autre méthode consistait à faire appel à des magistrats choisis hors de la cité, les podestas. On pourrait imaginer en France qu'on fasse appel à un sage venu d'ailleurs. Ou bien à minorer l'emprise politique des magnates, des plus riches, en les déclarant inéligibles à certaines fonctions. Donc ce souci d'éviter que les plus riches ne se saisissent de la démocratie pour accaparer le pouvoir se retrouvera, nous le verrons, dans l'histoire de la démocratie américaine, avant d'être retourné en son contraire aujourd'hui, notamment par le récent arrêt American Citizens, dont nous parlerons, qui a au contraire imposé l'idée d'une démocratie comme marché des idées et ouvert en grand les vannes du financement des campagnes électorales par les grandes entreprises. Donc c'est un retournement complet par rapport à ce qu'était la culture des villes médiévales. La nature économique de la Renaissance médiévale de la démocratie se trouve à l'état chimiquement pur dans les villes franches des Flandres et du nord de la France. Même s'il arriva parfois que ces franchises soient arrachées à des princes féodaux récalcitrants, ces derniers y trouvaient le plus souvent leur avantage, en sorte que les communes étaient en fait englobées dans la féodalité, tout en contenant en germe son contraire. J'emploie ici un concept de Louis Dumont, l'englobement du contraire. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ces villes franches apparaissaient au fond comme des vassales, donc elles pouvaient s'intégrer harmonieusement dans le système féodal, mais en leur sein, il y avait quelque chose qui allait renverser le régime féodal. Du point de vue juridique, les libertés communales se présentaient comme des privilèges, c'est-à-dire une privata lex que le prince consentait à certains de ses sujets pour tenir compte de la particularité de leurs besoins. et les premiers privilèges économiques de ce type furent consentis dès l'époque carolingienne aux églises et monastères, et c'est en somme une extension de cette technique qui permit l'essor des chartes, marquant ici encore la perméabilité du droit canonique et du droit municipal. Les chartes octroyées par le prince fondaient le droit de certaines communes d'être exemptées de certaines taxes, d'adopter leurs propres règles et de choisir leurs magistrats, c'est-à-dire leurs échevins. Le degré de latitude conféré par ces chartes variait évidemment d'une commune à l'autre, mais elles combinaient généralement des privilèges économiques et des privilèges politiques. Les privilèges économiques répondaient aux nécessités du commerce. L'essor du commerce était en effet très profitable aux seigneurs, mais ils ne pouvaient s'accommoder des règles d'une société massivement terrienne et sédentaire. Par exemple, les commerçants ne pouvaient être attachés à la glèbe, restreints dans leurs mouvements, astreints aux corvées, empêchés de disposer de leurs biens comme l'était la grande masse de la population paysanne. Il fallait aussi qu'ils puissent disposer pleinement des biens nécessaires à leur activité, c'est-à-dire à ce que les économistes appelleront capital, moyen de production. Alors, vous le savez, dans le régime féodal de la tenure-service, le rapport des hommes aux choses se trouve placé sous la dépendance du rapport entre les hommes. Ça va être quelque chose qui se retourne complètement avec le capitalisme, où les rapports entre les hommes sont sous la dépendance du rapport de chacun aux choses. On tient la terre d'un seigneur à qui l'on peut devoir en contrepartie deux types de services, soit l'aide, l'auxilium, militaire et financière, ainsi que le conseil, le concilium, dans le cas d'un titulaire d'un fief ou d'un beneficium, c'est-à-dire d'un bienfait, soit le paiement de redevances pour les titulaires d'une censive ou d'une tenure servile. Donc ces services diffèrent selon qu'on est noble ou roturier, mais ils conduisent dans tous les cas à une pluralité de titulaires de droits sur un même bien. Et cette structure de la tenure-service, qui réapparaît aujourd'hui massivement, ainsi que nous l'avons vu en étudiant les liens d'allégeance, notamment au travers de la propriété intellectuelle, entrave la libre disposition des biens. Et c'est pourquoi les bourgeois des villes en furent exemptés. Et cette exemption répond à un calcul économique des princes. Ainsi, Guillaume le Conquérant, pour fonder la ville qui allait devenir Caen, accorda une franchise de taxes seigneuriales sur trois bourgs, Bourg-l'Abbé, Bourg-l'Abbesse et Bourg-du-Cal, attirant ainsi des marchands pour s'y établir. Donc, liberté économique d'un côté, et j'insiste sur ce point pour vous montrer là encore que dans cette naissance médiévale de la démocratie dans les cités, l'élément économique est central. Mais à cette liberté économique correspondait une liberté personnelle exprimée par l'adage, qui est un très bel adage, « l'air de la ville rend libre ». Le bourgeois est affranchi des règles du fort mariage, il peut se marier comme il veut, de la main morte ou de la corvée. Et ces libertés sont acquises aux serfs qui viennent s'établir en ville, ce qui naturellement en attire plus d'un et accroît la force de travail.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 25 novembre 2016 à l'Insupio les bases juridiques médiévales de la démocratie. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion, ainsi que les autres cours d'Alain Supiot. Le juriste a dirigé l'ouvrage collectif « Face à l'irresponsabilité, la dynamique de la solidarité » aux éditions du Collège de France en 2018. Je rappelle également sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'État social » chez Fayard en 2013. Iconographie web Claire Poinsignon. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie d'Alain Supiot l'analyse des figures juridiques de la démocratie économique. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.